Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit.
Amen.
La grâce de Jésus le Christ, notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous.
Et avec
l'Église bien remplie, ça fait toujours du bonheur, de la joie. Nous sommes heureux d'accueillir une cohorte d'enfants de cœur qui sont de ce patronage Notre-Dame du Lys qui est parmi nous depuis quelques jours et pour encore une semaine, je crois. Notre-Dame du Lys de Paris avec son directeur, Kevin, et son recteur, le recteur de la chapelle, François Schaeffer, le père François Schaeffer. Nous sommes heureux d'accueillir aussi le père Jean de Sauce, du diocèse de Carcassonne. Ce n'est pas souvent que nous avons des prêtres qui viennent de si loin. Ensemble, eh bien, nous venons effectivement nous mettre à l'écoute du Seigneur parce que sa parole est source de vie et de bonheur. Est-ce que nous y croyons ? Jamais assez, sans doute. Eh bien, aujourd'hui, demandons cette grâce et demandons-la à la Vierge Marie, la toute écoutante de Dieu, cette grâce d'écoute aimante de la parole de Dieu qui est là pour nous vivifier. Reconnaissons que, voilà, nous avons tant de résistance, de peur dans nos cœurs, peur de Dieu, peur de ses exigences, et pourtant il ne veut que notre bonheur. Demandons cette grâce de foi et d'écoute en reconnaissant que nous avons péché.
Lecture du livre du Deutéronome. Moïse disait au peuple : Écoute la voix du Seigneur ton Dieu en observant ses commandements et ses décrets inscrits dans ce livre de la loi. Et reviens au Seigneur ton Dieu de tout ton cœur et de toute ton âme. Car cette loi que je te prescris aujourd'hui n'est pas au-dessus de tes forces, ni hors de ton atteinte. Elle n'est pas dans les cieux pour que tu dises « Qui montera aux cieux nous la chercher ? Qui nous la fera entendre, afin que nous la mettions en pratique ?» Elle n'est pas au-delà des mers pour que tu dises « Qui se rendra au-delà des mers nous la chercher ? Qui nous la fera entendre afin que nous la mettions en pratique ?» Elle est tout près de toi, cette parole. Elle est dans ta bouche et dans ton cœur afin que tu la mettes en pratique. Parole du Seigneur.
Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Colossiens. Le Christ Jésus est l'image du Dieu invisible, le premier-né avant toute créature. En lui, tout fut créé, dans le ciel et sur la terre. Les êtres visibles et invisibles, puissance, principauté, souveraineté, domination, tout est créé par lui et pour lui. Il est avant toute chose et tout subsiste en lui. Il est aussi la tête du corps, la tête de l'Église. C'est lui le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin qu'il ait en tout la primauté. Car Dieu a jugé bon qu'habite en lui toute plénitude, et que tout, par le Christ, lui soit enfin réconcilié, faisant la paix par le sang de sa croix, la paix pour tous les êtres sur le ciel, sur la terre et dans le ciel. Parole du Seigneur.
Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, voici qu'un docteur de la loi se leva et mit Jésus à l'épreuve en disant : Maître, que dois-je faire pour avoir en héritage la vie éternelle ? Jésus lui demanda, « Dans la loi, qu'y a-t-il d'écrit ? Et comment lis-tu ? » L'autre répondit, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ton intelligence, et ton prochain comme toi-même. » Jésus lui dit, « Tu as répondu correctement, fais ainsi et tu vivras. » Mais lui, voulant se justifier, dit à Jésus, « Et qui est mon prochain ?» Jésus reprit la parole. Un homme descendait de Jérusalem à Jéricho et il tomba sur des bandits. Ceux-ci, après l'avoir dépouillé et roué de coups, s'en allèrent, le laissant à moitié mort. Par hasard, un prêtre descendait par ce chemin. Il le vit et passa de l'autre côté. De même, un lévite arriva à cet endroit, il le vit et passa de l'autre côté. Mais un Samaritain qui était en route arriva près de lui. Il le vit et fut saisi de compassion. Il s'approcha et pansa ses blessures en y versant de l'huile et du vin. Puis il le chargea sur sa propre monture, le conduisit dans une auberge et prit soin de lui. Le lendemain, il sortit 2 pièces d'argent et les donna à l'aubergiste en lui disant « Prends soin de lui. Tout ce que tu auras dépensé en plus, je te le rendrai quand je repasserai. » Lequel des trois, à ton avis, a été le prochain de l'homme tombé aux mains des bandits ? Le docteur de la loi répondit « Celui qui a fait preuve de pitié envers lui. » Jésus lui dit « Va, et toi aussi, fais de même. » Acclamons la parole de Dieu. Lorsque nous entendons cette parabole et la finale de Jésus, « Va et toi aussi fais de même », bien nous comprenons effectivement que Jésus nous dit à toi aussi de devenir le prochain de l'autre. Fais-toi proche des autres, quels qu'ils soient, et spécialement de ceux qui sont dans le besoin. Alors là, il y a toujours du pain sur la planche, mais il s'agit de demander au Seigneur de dessiler nos yeux, parce que nous sommes souvent, hélas, je crois, comme ce prêtre et ce lévite, et nous avons 1000 excuses pour ne pas faire le bien qui serait à notre portée. Oui, je crois qu'il est utile de temps en temps de demander au Seigneur de nous éclairer, de faire le point sur ce bien, ces péchés d'omission, tout ce bien que nous pourrions faire, que notre vie pourrait porter, et que nous omettons de faire, sous 1000 prétextes. Bon prétexte, bien sûr. À ce docteur de la loi qui veut savoir dans quelle mesure, dans quelle limite, il est tenu d'aimer, de faire preuve de pitié, de bonté, Jésus révèle que l'amour ne peut être enfermé dans des catégories, des limites, des barrières de classe, de race, de religion. Et ceci, eh bien, parce que, comme nous le dit saint Paul dans cette lettre que nous venons d'entendre aux Colossiens, Jésus est justement l'envoyé du Père pour tout réconcilier. Le péché a divisé, a morcelé l'humanité. Nous ne savons que trop aujourd'hui. Et Jésus est l'envoyé du Père pour tout réconcilier, faisant la paix par le sang de sa croix, la paix pour tous les êtres, pour que tous les êtres vivent dans sa paix, sur la terre et dans le ciel. Mais il faut donc noter aussi, très spécialement, que le prochain dans la parabole, imaginé par Jésus, c'est donc bien d'abord le Samaritain, avant d'être cet homme blessé, dont il faut se faire proche. C'est d'abord ce Samaritain, dont le Juif, le docteur de la loi, n'ose même pas prononcer le mot « Samaritain ». Celui qui a fait preuve de pitié, dit-il, tellement ce mot lui est en horreur. Ce Samaritain, oui, que le docteur de la loi méprise, pour ne pas dire honnie, parce que c'est un métis, et qui plus est un hérétique. Jésus veut donc convertir le regard de son interlocuteur, l'inviter à reconnaître que ces Samaritains qu'il ne peut pas sentir sont capables d'une plus grande bonté que certains juifs pratiquants et même que certains prêtres ou lévites qui devraient être donnés l'exemple de la bonté. Et que par conséquent, il faut reconnaître, admirer et imiter le bien qu'ils font, ces sacrés samaritains. Il nous est certainement arrivé d'entendre et de constater que des non-chrétiens et des non-croyants sont capables d'une plus grande humanité et d'une plus grande générosité que certains chrétiens, hélas. Et nous avons à en prendre leçon, non pas hélas parce qu'ils font le bien, mais hélas parce que certains chrétiens, effectivement, ne donnent pas le témoignage qu'ils devraient donner, et donnent parfois des contre-témoignages, nous le savons que trop aussi par l'actualité. Ce prochain que nous devons aimer comme nous-mêmes, c'est donc d'abord pour Jésus tous ceux qui, au cours de notre vie, se sont fait proches de nous. Ceux qui nous ont aidés à vivre, petite araignée. Ceux qui se sont fait proches de nous. Ceux qui nous ont aidés à vivre, à grandir, à franchir des passages difficiles, à survivre même parfois. Ce sont donc en premier nos parents, évidemment. Nous leur devons rien moins que la vie. Ils ont la plupart du temps fait de leur mieux pour nous offrir protection, affection et croissance. Oui, sans doute, ils avaient leurs lacunes, leurs maladresses, leurs défauts, mais cela ne remet nullement en cause une juste reconnaissance pour tout le bien que nous leur devons. Honore ton père et ta mère. Voilà ce que Dieu inscrit dans le cœur de l'homme, cette loi naturelle. L'ingratitude envers ses parents est une faute grave, parce que nous leur devons rien moins que la vie, et bien plus. Et pourtant, des parents sans nouvelles de leurs enfants, cela existe. Et des grands-parents coupés de leurs petits-enfants, cela existe aussi. Et même chez des soi-disant chrétiens. Notre prochain à aimer, c'est aussi tous ceux qui nous ont aidés à grandir en taille, en sagesse et en grâce, pour reprendre les mots de Saint Luc. Tous ceux spécialement qui ont été une oreille bienveillante, une main tendue, pour traverser des moments plus difficiles, sans oublier peut-être la kyrielle de soignants auxquels nous avons eu recours. Toutes ces personnes aussi qui nous ont marqués par leur vie, leur témoignage de vie, qui nous ont stimulés, éclairés pour tracer notre propre chemin et trouver notre vocation. Et c'est encore bien sûr le conjoint et tout ce que nous lui devons, que de péché d'omission sans doute, pour manifester la gratitude à notre conjoint. Ce sont encore, évidemment, les enfants qui, ils reçoivent des parents, mais ils apportent aux parents, n'est-ce pas? Je pense que vous en êtes convaincus, vous, les parents. Les enfants qui stimulent leurs parents à grandir dans le don de soi, donc dans l'amour. Qui nous dérange, oui, qui dérange parfois notre égoïsme et nous pousse, nous provoque à aimer davantage. Ce sont encore tous ces amis qui ont mis de la joie et du sel dans notre vie et étaient là aussi pour nous aider dans les moments de turbulence. Mais le prochain par excellence, c'est Dieu lui-même, puisque justement nous lui devons tout. en particulier le partage de sa propre vie qu'il nous a offerte au baptême et qu'il ne cesse de nous offrir par les sacrements et toute la vie de l'Église. Le prochain, c'est le Christ qui s'est tellement fait proche de nous qu'il est venu partager notre vie, qui plus que lui s'est penché sur notre humanité blessée et pécheresse pour la soigner et la relever. Oh, sans doute j'en ai parlé ici déjà, mais j'aime à rappeler cette sculpture que j'aime beaucoup, où l'on voit effectivement cet homme blessé et qui est porté à la tête et aux pieds par le Père et le Fils et l'Esprit aussi qui plane, aussi qui vient comme répandre une onction de douceur sur cet homme blessé qui nous représente. Alors n'est-ce pas une très grande ingratitude que de négliger le Seigneur et de passer nos journées sans lui alors qu'il ne cesse de nous faire du bien? Je crois que l'évangile de ce jour nous invite à reconnaître les dettes de gratitude, de reconnaissance que nous avons envers les autres et envers le Seigneur, et à choisir de mieux nous en acquitter dans la mesure du possible. Et je termine par ces mots du père Sonnet, Denis Sonnet. La charité bien comprise n'est donc pas cette corvée ou cette condescendance de la pitié en face d'une personne dans le besoin. Elle est joie, la charité. Saint Paul nous le dit aussi. Elle est joie. Le fruit de l'amour, de la charité, est joie, paix. Elle est joie, joie de la reconnaissance pour ceux qui nous ont tellement apporté. Oui, quand on fait le point, quand on essaye de se souvenir de tout ce que nous devons aux autres, on pourrait faire un long listing. Joie de la reconnaissance pour ceux qui nous ont tellement apporté. Joie aussi de donner de sa joie à ceux qui n'ont pas eu notre chance. Et de citer un écrivain qui n'est pas spécialement chrétien, loin de là, je crois. Mon bonheur est d'augmenter celui des autres. J'ai besoin du bonheur des autres pour être heureux.